Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview. Émission que vous pouvez aussi écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, nous sommes en compagnie du docteur Hugues Rennes. Bonjour.
Bonjour.
Monsieur Hugues Rennes, donc vous êtes ici pour nous parler de deux événements que vous organisez. L'un qui sera le 6 mars, vendredi prochain donc.
C'est ça, oui.
Et le suivant, le jeudi 18 juin. Et c'est sur un essai sur la vie intra-utérine.
Exactement, sur la vie intra-utérine, oui.
Alors, qu'est-ce que vous avez envie de partager sur cette notion de la vie intra-utérine ?
D'abord, il faut comprendre que c'est une connaissance que nous n'avons absolument pas. C'est-à-dire, pour l'instant, il y a très peu d'écrits sur ce qui se passe comme expérience dans la vie intra-utérine. Et pourtant, c'est une période extrêmement importante, comme on va le voir, parce que maintenant, avec différentes approches, différentes disciplines, on peut commencer à se faire une idée de ce qui se passe dans l'expérience de la vie intra-utérine, en dehors de ce qu'on connaît déjà, qui est l'embryologie, qui est la construction de ce petit corps en partant de la fécondation pour arriver à la naissance à un enfant viable.
Pour ça, vous avez recherché, vous vous êtes documenté, vous avez aussi découvert. À partir de quel moment vous estimez qu'il y ait une communication possible entre l'embryon et sa mère ?
Alors, d'abord, moi, je me suis intéressé à cette question parce que je suis obstétricien et que forcément, quand on voit apparaître un bébé, eh bien, on se demande d'où il vient, qu'est-ce qu'il a vécu. Surtout quand on a l'occasion de voir ce qu'on appelle le proto-regard, le premier regard qu'il plonge dans les humains, eh bien, on est saisi de la profondeur de ce regard et on se demande qu'est-ce qu'il vient de vivre, de quel monde il arrive. Et donc, ça fait depuis 1975 à peu près que je me pose la question de cette expérience. Et j'ai eu la chance, en même temps, parce que je suis obstétricien, de pouvoir apercevoir ce qui se trame entre l'enfant et sa mère pendant ces 9 mois. Et puis, par d'autres connaissances de la psychologie, aussi de l'histoire de l'évolution de la vie. L'enfant appartient à une grande histoire qui s'appelle la phylogénèse. Et comprendre comment les règles, les grandes lois de cette évolution, c'est très important. Et puis, très récemment, les neurosciences se sont penchées sur la question du bébé et ont apporté des éléments extrêmement importants. Alors, quant à votre deuxième partie de question, c'est-à-dire à partir de quel moment il y a un échange, ça dépend de qu'est-ce qu'on parle comme échange, mais il a lieu très très tôt, en fait. C'est-à-dire que... est-ce qu'on peut parler d'échange ? Parce qu'en fait, c'est une unité mère-enfant, c'est-à-dire qu'il y a une symbiose vraiment entre la mère et son enfant, et on verra dans cette soirée que la communication, il y a une communication qui peut se faire, dont on ne comprend pas les modalités, mais qui se passe entre la mère et l'enfant, et qui échappe à notre compréhension, mais que les neurosciences peuvent prouver. Ensuite, au niveau de l'audition, on pense que l'enfant entend à un système qui est mûr assez rapidement, mais qu'il entend vraiment à partir de 32 semaines. Mais n'empêche que les échanges avec la mère se font beaucoup plus tôt, énormément plus tôt.
Et vous avez quelques notions, justement, à quel moment donc il y a une sensibilité qui est captée par ou qui émane de l'embryon ou du fœtus ?
Alors, si vous voulez, le bébé dans le ventre de sa mère, il est pris dans une première expérience qui est la plus fondamentale, qui est une expérience que certains ont appelée la totalité vitale et que moi j'appelle la complétude. C'est-à-dire qu'en fait, il est totalement construit, assisté dans cette construction par sa mère. Et ce n'est pas sa mère en tant que simplement une femme qui a une identité, j'allais dire, sur sa carte d'identité, ou bien qui a une personnalité. C'est à travers elle, la mère universelle qui est à l'œuvre. C'est-à-dire que c'est une grande œuvre qui a lieu dans le ventre d'une femme, qui résume l'histoire de 4,6 milliards d'années de la construction de l'humain, puisque ça a pris 4,6 milliards d'années. Et donc, vraisemblablement, l'enfant ne le perçoit pas simplement comme une mère avec une personnalité, tout au moins pendant la grossesse, mais surtout comme un immense amour penché sur sa construction, puisque la femme, qu'elle le veuille ou non, et sauf si elle prend des toxiques, mais elle adapte toutes les circonstances nécessaires à l'évolution de cet être seconde après seconde, presque pendant 9 mois. Donc il y a une espèce d'immense amour, d'immense intelligence à l'œuvre, et c'est devant cette immensité que l'enfant est.
Pour ça, vous organisez ces 2 soirées. Il sera proposé quoi précisément pour le 6 mars, par exemple ?
Alors, la première soirée, ça va justement pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se trame dans cette vie intra-utérine. C'est-à-dire qu'on va essayer, on va reprendre tous les éléments qu'on a, que ça vienne, comme je disais, de l'observation de l'obstétricien que je suis, que ça vienne de la connaissance de la psychologie, que ça vienne de la phylogénèse, que ça vienne des neurosciences. On va essayer de voir quels sont tous les éléments, rassembler tous ces éléments et voir est-ce que tous ensemble, ils peuvent donner un aperçu de qu'est-ce qui se passe dans la vie intra-utérine, quelle est l'expérience que nous vivons. Parce que c'est très curieux qu'on donne notre âge à partir de notre naissance, alors que nous avons déjà 9 mois de vie dans le ventre de notre mère et que ces 9 mois sont essentiels dans la construction de l'humain et dans son évolution. Et ce sera justement peut-être... La deuxième partie, elle va beaucoup s'occuper de savoir quelle trace il nous reste de cette expérience, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'elle produit dans l'homme et qu'est-ce qu'il y a de contenu dans notre avenir, dans cette expérience pourtant du passé de la vie intra-utérine. C'est-à-dire qu'elle contient des mystères de notre propre évolution.
Qu'est-ce qui vous tient à cœur et que vous voulez affirmer par cette démarche de ces organisations de soirées il y a une idée, au fond, primordiale pour vous ?
Alors, il y a plusieurs idées. La primordiale actuellement, c'est pas celle qui a fait que je me suis mis en route dans cette recherche, c'est qui était plutôt le fait que je voulais comprendre parce que j'étais obstétricien. Mais ce qui me touche beaucoup maintenant, c'est le fait que, n'ayant aucune connaissance, le monde ayant très peu de connaissances ou aucune connaissance de cette période, on prend des décisions sans trop savoir à quoi on touche. Et je vais parler, par exemple, de la parentalité. C'est-à-dire qu'on veut s'occuper d'un enfant, mais on ne sait pas très bien d'où il vient, on ne sait pas qui il est, et donc on ne sait pas précisément comment l'aider à s'adapter aux conditions de la vie sur Terre qui n'ont rien à voir avec celles de la vie intra-utérine. Et puis, il y a d'autres choses qui sont en train de se faire avec toute cette histoire de la PMA pour tous, avec, en arrière-plan, bien que tout le monde s'en défende, l'idée de ce qu'on appelle la grossesse pour autrui et qu'on appelait avant les mères porteuses. Et là, si vous voulez, la connaissance de la vie intra-utérine amène des informations extrêmement importantes pour ne pas faire n'importe quoi. Ce qui ne veut pas dire que j'ai une idée préconçue sur ce qu'il faut faire, mais cette connaissance va permettre d'amener des éléments de réflexion sérieux qui vont permettre de prendre des décisions sur tous ces sujets-là et bien d'autres de façon beaucoup plus responsable. En particulier, si vous voulez, on sait très bien actuellement que cette période, si elle est mal vécue et qu'elle n'est pas accompagnée pendant la grossesse et dans le postnatal, si elle n'est pas accompagnée et que la femme vit des choses très difficiles, eh ben ça va marquer son enfant. Et quand je dis très difficile, ça peut même aller jusqu'à quelquefois une maltraitance. Et on sait maintenant de façon très précise que la maltraitance va produire des dégâts cérébraux qui seront a priori difficilement réversibles, voire irréversibles. Et donc ça va changer beaucoup de choses sur la conception de la grossesse et de la parentalité.
Vous ne dites pas quand même qu'il peut y avoir de la maltraitance dans une vie intra-utérine ?
Alors, de la maltraitance dans la vie intra-utérine, je ne peux pas dire ça, en effet, parce que on n'a pas, si vous voulez, c'est quand même une science qui commence à apparaître et on ne sait pas tout dessus. Par contre, il y a des gens comme Claude Imbert ou bien même le très connu Boris Cyrulnik qui ont dit qu'il y avait des traumatismes anténataux. C'est-à-dire qu'il se passait des choses qui pouvaient être de l'ordre de traumatismes pendant la grossesse et que ces traumatismes pouvaient se révéler après la naissance. Alors, je pense qu'en fait, ça c'est moi qui dis les choses comme ça, mais je pense que même s'il s'est passé des choses très compliquées dans la grossesse, s'il y a eu ce qu'on appelle résilience, c'est-à-dire quelque chose qui s'est apaisé par rapport à ces problèmes, l'enfant aura très peu de conséquences. Mais si il y a une violence conjugale, par exemple, qui ne s'est pas résolue et qu'au moment de la naissance, l'enfant tombe dans un monde où il y a une violence conjugale, ça va faire des vrais problèmes, des vrais traumatismes. Parce que l'enfant, il vient de l'amour. La vie intra-utérine, c'est l'amour. Et quand on vient de l'amour et que tout d'un coup, on trouve la guerre, ça fait un tel choc qu'on ne sait pas trop comment réagir.
Là, c'est l'exemple de l'enfant conçu par dans l'amour. Il existe aussi des enfants qui sont conçus par de malheureux actes. Ça, c'est une considération que vous prenez en compte aussi. Est-ce qu'il y a un traumatisme prénatal déjà d'emblée pour vous ?
Alors qu'il y ait d'emblée un traumatisme prénatal, je ne sais pas. Dans tous les cas, je ne sais pas. Que de toute façon, la naissance soit une période difficile où on passe d'un monde à l'autre et que ça crée un traumatisme à la naissance, ça par contre, oui, à la naissance, il y a quelque chose qui est de l'ordre du traumatisme. Parce que venir d'un monde de cette quasi-perfection, de cette complétude et arriver chez les humains, c'est de toute façon un choc, ça c'est certain.
En ce qui concerne l'IVG, quelle est votre position sur ce thème de l'interruption volontaire de grossesse? Est-ce que vous y voyez une maltraitance, par exemple, aussi?
L'IVG, c'est pas. Enfin, on ne peut pas parler de maltraitance. C'est un féticide. C'est-à-dire qu'on va supprimer un enfant. Moi, je n'ai pas d'idée arrêtée. Enfin, bien sûr, comme je suis gynécologue, j'ai accompagné beaucoup de femmes qui souhaitaient des IVG et je ne me suis jamais positionné en disant vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. Mais j'ai toujours dit, mon discours a toujours été de dire écoutez, moi je vais vous aider à prendre votre décision. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Il y a celle que vous prenez le plus en votre âme et conscience. Et si je peux vous accompagner pour que vous choisissiez l'un ou l'autre, mais où ensuite ça ne laissera pas de blessure trop profonde en vous, c'est-à-dire que vous aurez vraiment réfléchi, vous ne vous serez pas précipité dans une solution ou dans l'autre, alors ce sera réfléchi, vous aurez fait au mieux et vous n'aurez pas de regrets. Et du coup, ce sera quelque chose qui sera établi de façon plus solide que se précipiter dans quelque chose sans avoir réfléchi.
9 mois pour construire l'humain. Il y a donc la mère hein, qui porte l'enfant en elle. Et puis, il y a aussi le père. Quelle est sa position dans votre démarche sur les 9 mois pour construire l'humain?
Alors, le père, si on s'occupe de la vie intra-utérine, le père, il est un peu à distance. Et pas complètement, mais il est un peu à distance parce que c'est une affaire qui se passe entre la mère et l'enfant. Ceci dit, dans la vie intérieure de la femme, l'homme existe. Et donc, en fait, l'enfant est en contact à travers sa mère aussi avec le père, avec l'état affectif de cette femme en relation avec cet homme. Par contre, bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'a rien à faire dans la grossesse. C'est des choses que j'ai développées dans un livre « Nouveaux parents, nouveaux enfants » il y a quelques années. Et le père a eu un rôle extrêmement important par rapport à la grossesse, par rapport à l'accouchement, par rapport à l'enfant, par rapport à l'accompagnement de cette femme dans cette épreuve, cette expérience qu'est l'accouchement et cette expérience qu'est naître. Et donc, je pense que le père a un rôle, je le répète, centrale dans toute cette histoire, même s'il n'est pas en contact direct avec l'enfant pendant la grossesse.
Alors, il y a une question dans ce premier module. 9 mois pour préparer le pilote. Est-ce que vous pouvez signifier un peu cette question?
Alors, après, c'est la question que je vais poser un moment dans la soirée. C'est finalement, c'est quoi un enfant? Qu'est-ce que c'est? De quoi c'est fait un enfant? Et si vous voulez, l'ensemble des considérations, des éléments qu'on a, comme je l'ai dit, à travers l'obstétrique, à travers la phylogénèse, à travers les neurosciences, à travers la psychologie, permet de poser l'hypothèse suivante, c'est qu'en fait, l'enfant, il est fait d'un corps, ça tout le monde le sait, d'un psychisme, mais le psychisme, c'est ce qui permet d'adapter le comportement de ce corps aux circonstances de la vie. Et puis, recherches en psychologie ont montré que autour de la naissance, il y avait quand même la perception qu'il y avait un être. C'est-à-dire qu'il y avait un être qui était aux commandes de tout ça. C'est-à-dire qu'il y aurait finalement un pilote, un véhicule d'exploration de l'espace et du temps humain qui est le corps, et puis un intermédiaire qui serait le psychisme, qui serait l'esprit, enfin pas l'esprit, qui serait le psychisme, pardon, qui permettrait de faire le lien entre cet esprit qui arrive et qui a comme un pilote, il a un programme de vol, c'est-à-dire qu'il va essayer de... Il arrive avec quelque chose, et ce quelque chose, il va essayer de le mettre dans la matière. Alors, c'est quoi ce quelque chose? Et c'est là où la phylogénèse est très intéressante, c'est que depuis que la vie a commencé sur Terre, et elle a commencé tout doucement, mais il y a 4,6 milliards d'années, toutes les formes de vie, tout ce qui s'est succédé sur Terre, a essayé d'apporter son pas à l'évolution. Et donc, je ne comprendrais pas pourquoi, finalement, l'homme serait une exception. Et donc, tous les humains ont... de par leur nature spécifique, quelque chose qu'ils peuvent apporter à l'évolution de la vie. Et je pense que le pilote, c'est ça. C'est celui qui connaît, qui va prendre les commandes et celui qui connaît son programme. C'est-à-dire, il sait qu'est-ce que lui, il a de spécifique qu'il pourrait amener à l'évolution de cette vie.
Vous voulez dire que chaque être, depuis les temps immémoriaux, ont eux un code qui les motive dans une course à l'évolution, quelque chose comme ça?
Oui, on peut dire ça comme ça, oui. Il y a quelque chose que Paulo Coelho avait appelé la légende personnelle. Ce Brésilien qui avait écrit le livre, il avait écrit un livre sur la légende personnelle, et donc ça rejoint ça, c'est-à-dire qu'il y a dans chaque être qui arrive sur Terre quelque chose qui lui importe et qui va être en lien justement avec l'évolution et qui va permettre, s'il y arrive à le faire, à poser sa pierre dans la grande expérience de la vie.
Actuellement, est-ce qu'il existe une science avérée et rationnelle qui traite de ce sujet ?
Alors oui, je me rappelle, le titre c'était l'alchimiste, hein, le titre de Paulo Coelho. Alors oui, les sciences les plus précises qui traitent de ça, ce sont les neurosciences, bien sûr. Il y a eu, pour ceux que ça intéresse, toute une revue dans Sciences et Avenir qui a eu en 2017, je crois, et qui faisait état de toutes les nouveautés. Et justement, on sait par exemple actuellement que, en ayant étudié le bébé de très près, que dès la naissance, c'est vraiment, on l'a comparé à un ingénieur en recherche et développement de très très haut niveau. C'est-à-dire qu'il a la capacité, par des algorithmes, d'explorer le monde, d'essayer de comprendre comment il fonctionne pour le contrôler. La seule chose, c'est que pour que ce soit possible, il faut qu'il soit sur une base qu'on appelle une base sécure, c'est-à-dire qu'il ait de la bientraitance et la bienveillance, et que les messages qu'on lui envoie soient cohérents. C'est-à-dire que quand il fait une hypothèse, si de temps en temps cette hypothèse marche, de temps en temps ça ne marche pas, il est en insécurité. Si ça marche à tout coup, alors il a une maîtrise sur le monde. Et donc, il faut que les parents deviennent cohérents dans leurs réponses. Toutes les incohérences rendent le bébé un peu inadapté, un peu en difficulté plutôt.
L'incohérence, les aléas, c'est aussi une part de la vie, de l'évolution de la vie, non ?
Tout à fait, vous avez entièrement raison de soulever ça. C'est-à-dire que je caricature un peu, c'est-à-dire qu'il y a toujours un peu des incohérences et ça fait partie de la vie, vous l'avez dit de façon très très juste. Mais si c'est toujours totalement incohérent et que ça remet en cause l'amour qu'on porte à un enfant, là ça devient beaucoup plus problématique. Donc bien sûr qu'il y a, on est tous des êtres imparfaits, donc ça ne va jamais être nickel et c'est normal. La seule chose qu'on peut peut-être faire, c'est être honnête. Et quand on se trompe, le dire. Alors, un bébé de quelques jours, il ne le comprendra pas comme nous, mais il le comprendra. Mais dire à un enfant, bah, écoute, moi je l'ai fait avec mes enfants, je raconte dans mon livre, hein, mais quand je me trompais, et ça m'arrivait, eh bien je dis à mon enfant, écoute, j'ai dit ça, mais ça c'était parce qu'il y avait un peu de colère, il y avait quelque chose de vrai, mais il y avait peut-être quelque chose de faux là-dedans. Et reconnaître ça, ça permet à l'enfant de faire de retrouver du juste à l'intérieur et de retrouver une cohérence au monde.
Alors ça, c'était la première partie de Essai sur la vie intra-utérine, sous-titré donc « 9 mois pour construire l'humain ». Nous passons ensuite au 18 juin, et ça sera la deuxième partie, avec « Impact sur l'existence humaine ». Alors là, il ne s'agit plus d'un enfant dans le ventre de sa mère, mais d'un enfant né.
Oui, d'un enfant né, et puis il s'agit non seulement d'un enfant né, mais de nous. Et c'est-à-dire qu'en fait, il y a en nous une trace de cette expérience, comme on a une trace de la petite enfance, de l'enfance, de l'adolescence. Toutes les techniques de thérapie, que ce soit psychanalytique ou autre, l'ont montré. Et que là, il y a une trace en nous. Et cette trace, elle est précieuse. C'est-à-dire que l'enfant, quand il arrive, quand nous sommes arrivés sur Terre, nous sommes arrivés avec ce que j'appelle un trésor. Ce trésor, c'était l'expérience de la vie intra-utérine. Et ce trésor, il a été un peu mise à mal par le choc de la rencontre avec le monde humain qui fonctionne, comme on le sait, de façon quelquefois très chaotique. Mais par contre, ce trésor, il a envie de l'exprimer. Et donc, il y a des forces qui vont faire qu'il aura envie de l'exprimer et des forces qui vont faire qu'il va plutôt se retenir de les exprimer. Et donc, ça veut dire que, est-ce qu'un humain a la capacité d'exprimer son être essentiel, puisque c'est de ça dont il s'agit, oui. Est-ce que c'est facile? Pas toujours. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à l'aube, j'ai développé différents outils pour essayer que chacun puisse comme ça rencontrer cette partie essentielle en lui, l'exprimer et devenir ce qu'il est au fond de lui-même. La phrase n'est pas de moi, mais devenir ce que l'on est, c'est de se mettre en rapport avec l'être essentiel en nous et l'exprimer.
Vous avez affaire à des personnes qui, justement, sont un peu égarées, à ne pas savoir quel cheminement prendre.
Alors, les êtres égarés, bah oui, il y en a, mais c'est pas, moi, je pense que ce n'est pas tout à fait ça. Moi, je ne me sens pas vraiment égaré, et pourtant, j'ai eu besoin, tous les outils que je propose, j'ai eu besoin de les pratiquer sur moi-même pour essayer, si vous voulez, de modifier un certain nombre de comportements qui n'étaient plus adaptés. Je vais essayer d'expliquer ça de façon simple. C'est-à-dire qu'à la naissance, il y a un transfert. C'est-à-dire que l'enfant, il sort du ventre de sa mère, dans lequel il a baigné dans l'amour, et il va être en relation cette fois-ci avec un couple, un papa, une maman, qui ont une personnalité. Et cette personnalité, ces deux personnalités ensemble, mais chacun aussi séparément, ils ont une raison précise d'attendre cet enfant. Et cette raison précise, le problème actuellement, c'est qu'elle est le plus souvent inconsciente. Et qu'on dit, oui, mais ils attendent un enfant par amour. Et là, j'ai des gros doutes sur ce raccourci. Parce qu'en effet, il y a une partie d'amour dans vouloir un enfant, mais il y a aussi une partie qui, quelquefois, est très égoïste. Et on sait très bien, par exemple, qu'il y a ce qu'on appelle l'enfant médicament. C'est-à-dire que si on n'a pas un enfant, c'est comme si tout d'un coup, la personnalité risquait de s'effondrer. Alors, si l'enfant vient pour soutenir une personnalité chancelante, c'est un enfant médicament, et lui, il le saura. Et il le sait, et donc, il sait que comme il doit de toute façon se relier à cette femme et à cet homme, eh bien, il va accepter le deal. Et c'est ce qu'une psychanalyste qui s'appelle Anne Dufour-Montel, qui est morte il y a 2-3 ans maintenant, a très bien décrit dans un de ses livres. C'est ce contrat qui a lieu entre le couple, on va dire, et l'enfant, le plus souvent inconscient. Je ne dis pas que les parents font ça exprès, hein, ils le font de façon inconsciente. Mais ce contrat produit chez l'enfant la décision d'un comportement qui devient désadapté avec l'âge. Et donc, toute l'idée, c'est de considérer cette décision qui a été prise et de changer cette décision et de plus faire le même comportement qui nous met chaque fois dans des situations très compliquées et très douloureuses. Donc c'est pour sortir des situations douloureuses, et en sortant des situations douloureuses, on peut à ce moment-là accéder à l'essentiel, cet être essentiel, cet esprit, ce pilote, et que ce pilote fasse finalement sa part, qu'il suive son propre plan de vol que personne ne connaît, il n'y a que lui qui le connaît.
Pour cette deuxième organisation, d'autres questions, l'empreinte de la construction et sur le comportement humain.
Alors, cette empreinte, ben justement, si vous voulez, je crois qu'il y a en chaque homme de grands espoirs, plus ou moins cachés. Et ces grands espoirs, on les rencontre finalement quand on s'est creusé un peu. Ils apparaissent sous des formes différentes, mais ils existent sous toutes ces formes, comme des empreintes fondamentales. C'est-à-dire qu'en tout homme, il y a l'idée de la perfection, il y a l'idée de la justice, il y a l'idée de la vérité, il y a l'idée de la fusion. Or, tout ça, on le retrouve non seulement dans les religions, bien sûr, mais on le retrouve aussi dans l'éthique, on le retrouve dans la philosophie, on le retrouve chez des non-croyants, bien évidemment. Et c'est ça qui compte. C'est cette espèce de pureté avec laquelle arrive l'enfant, qui se traduit par une certaine perfection, la vérité, la joie, le plaisir, la joie, et la fusion. Et donc, ces choses-là, si vous voulez, je suis très, très, très simpliste en disant tout ça, parce que c'est beaucoup plus précis que ça, mais tout ça, ça forge pour l'être quelque chose qui est l'essentiel, le trésor. Et il a envie, au moins, d'incarner une partie de ce trésor sur Terre. Il se sent détenteur d'une partie de ça et il a envie de l'incarner. Pour amener sa pierre, comme je disais, à l'évolution. Écoutez, si on va vers plus de justice entre les humains, plus de vérité, plus de joie, est-ce que c'est une catastrophe ? Ben pas du tout, ça manque cruellement. Donc je pense qu'au contraire, aider les humains à trouver ce qu'ils ont d'essentiel de cette nature-là, en dehors de toute considération religieuse, etc., etc., mais aussi dans ces considérations, où chacun est libre de penser comme il veut, alors peut-être qu'on va vers un monde qui sera meilleur. C'est peut-être utopiste, mais je pense qu'on va faire un monde meilleur.
Pour vous, d'ailleurs, qu'est-ce qu'un monde meilleur ?
Un monde meilleur, c'est un monde où on n'est plus dans la justice, dans la vérité, où on accepte que l'autre, non seulement on l'accepte, mais on goûte à quel point l'autre différent de nous est important. À quel point le fait qu'il pense différemment de nous, qu'il regarde différemment de nous, est une chance parce que ça apporte un plus à notre perception. Alors que les humains, actuellement, le plus souvent, ils pensent comme ça, il faut s'opposer à l'autre qui pense autrement. Et moi, j'essaye vraiment d'apprendre à mon être à regarder chaque personne qui pense, même si tout n'est pas juste, à regarder quel est son point de vue et en quoi il enrichit le mien. Et c'est d'ailleurs comme ça que, finalement, je vous parle de tout ça aujourd'hui. C'est que j'ai regardé beaucoup de points de vue, j'ai discuté avec beaucoup de monde. J'ai discuté, par exemple, avec Marie-Claire Busnel, qui est une femme qui a travaillé au CNRS sur la relation mère-enfant et qui a montré que cette relation, elle se faisait à travers les murs, sans aucun contact, et qu'il y avait quelque chose où, quand la mère s'adressait à son enfant derrière le mur, l'enfant percevait l'intention de sa mère. Ça a été montré par des expériences très précises. Vous me demandiez s'il y a des choses stables. Ça, c'est quelque chose de stable. Marie-Claire Busnel, CNRS.
Les traces universelles, vous proposez ça, donc, de cette expérience fondatrice de l'humanité. Vous avez parcouru la culture universelle de l'enfant.
Alors, quand je dis universel, c'est ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure. C'est qu'à travers toutes les traditions qu'on peut rencontrer, comme je disais tout à l'heure, qu'il y ait une foi ou pas de foi, à travers toutes les traditions, on retrouve toujours l'espoir. L'espoir de quelque chose de mieux, comme je disais tout à l'heure, avec toutes ces composantes de vérité, de plaisir, de fusion et d'une certaine perfection. Et donc ça, c'est l'espoir universel au fond de l'humain. Le problème, c'est que c'est ce qu'on verra donc la deuxième fois, le 18 juin, c'est que le problème, c'est que quelquefois les blessures sont tellement fortes que l'être est désespéré. Et quand l'être est désespéré, il n'a même plus le courage d'aller chercher au fond de lui ce qui lui tenait le plus à cœur pour l'incarner. Et c'est ça. Mais la trace universelle dont je parle, c'est celle-là. C'est celle qui appartient à tout humain, parce que tout humain a l'expérience de la vie intra-utérine. Aucun de nous n'a pu naître sans passer par cette étape. Et donc, tous nous sommes marqués de cette étape, qui a des composantes précises, générales.
Après, vous abordez aussi les conséquences pour conduire sa vie, les outils dont nous disposons. Alors, vous parliez tout à l'heure d'algorithmes, ça c'est un des outils. Mais...
L'algorithme, là je parlais de l'enfant et des moyens qu'il a d'explorer le monde, c'est-à-dire qu'à sa naissance, il va utiliser, il va faire des hypothèses, il va mixer les informations pour arriver à avoir une idée du monde extérieur. Donc ça, je parlais surtout de ça. Pour nous, les outils, c'est des outils finalement qui sont les outils de la psychologie, si vous voulez, adaptés à cette recherche, avec bien sûr des outils de type psychanalytique, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais oui, si, de type psychanalytique, des outils aussi qui vont essayer de regarder le comportement, et à partir du comportement, comprendre justement tout ce dont on parlait tout à l'heure, c'est ces contrats qu'on a faits dans notre petite enfance ou dans notre enfance, et qui sont devenus obsolètes maintenant, pour petit à petit quitter ces comportements et en adopter d'autres qui nous mettront plus dans la vie réelle et non plus dans une vie dominée par des décisions prises dans des conditions tout autres de notre petite enfance et de notre enfance.
Vous écoutez, j'ai comme un sentiment que l'humanité a vouloir aller vers sa, comment dire, une certaine sérénité, une plénitude. Est-ce que on ne considérerait pas finalement l'humain comme un objet d'étude et à améliorer, je dirais?
C'est certainement une partie des humains perçoivent ça comme ça. Moi, je ne le perçois pas comme ça. Moi, je le perçois comme vraiment l'aboutissement. L'humain, pour moi, c'est l'aboutissement de 4,6 milliards d'années. C'est quelque chose de très différent de l'animal, même si nous sommes issus du minéral, du végétal et de l'animal. C'est quelque chose qui est très différent parce que nous avons des capacités tout à fait spécifiques que l'animal n'a pas, bien que nous profitions quand même aussi de toutes les capacités animales. Et il a quelque chose de très particulier qu'on appelle la conscience, ce qui ne veut pas dire que les autres règnes n'en ont pas du tout. Mais la conscience qui permet d'agir et de décider. De décider non plus uniquement en fonction des événements, mais de décider justement en fonction de ce pilote. Et ça, c'est spécifique à l'humain. C'est-à-dire nous pouvons être créateurs de notre monde. L'animal, il subit quand même le monde. Le végétal, il subit le monde. Nous pouvons être créateurs du monde. Et ça, c'est tout à fait particulier à l'humain. Et pour l'instant, on voit bien que l'humain s'y prend très très mal. Parce que quand on voit à quel point notre société est dans un naufrage, on se rend compte qu'il y a beaucoup à faire. Et que finalement, peut-être bien que si les enfants naissent autrement, peut-être bien que si on les prend en charge un peu autrement, peut-être bien qu'ils pourront exprimer cette partie-là et qu'on va ainsi améliorer les conditions de la vie sur Terre, améliorer la relation interhumaine, la relation au monde, c'est-à-dire la relation à la Terre, à telle qu'on est en train d'abîmer énormément, et que tout ça va évoluer dans le bon sens.
Voilà de l'optimisme, donc. Et puis, on aborde aussi la grossesse, naissance et parentalité. Et quelles conséquences? Ça, c'est la question. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que la grossesse, naissance et parentalité, ce n'est pas tout simplement aussi du bonheur?
Alors, grossesse, naissance et parentalité, du bonheur, oui, sûrement, sûrement. Mais pas que, parce que si vous voulez, à force aussi dans les médias de présenter la grossesse comme un heureux événement, on a fait taire toutes les femmes qui souffraient. Et ça, c'est assez, ça a été assez désastreux. Et donc, il y a des choses qui sont très connues, c'est qu'il y a quelquefois une des dépressions dans le postnatal, des moments difficiles, et je pense que toutes les femmes qui ont des enfants en ont vécu. Ce serait un peu utopique de penser que tout se passe sur un petit nuage. Et que là, je suis quand même, j'allais dire, bien placé pour le savoir, puisque je faisais de l'obstétrique depuis 1975. Même un peu avant, 1974. Donc je sais très bien que ce n'est pas si simple que ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments de grand bonheur. Mais dans les moments difficiles, il y a besoin d'une aide, il y a besoin d'un accompagnement. Alors en effet, pourquoi parler de la grossesse, pourquoi parler de la parentalité et de la naissance? Ben justement parce que si on sait d'où vient l'enfant, si on sait à quel point il est important de préserver cette capacité exceptionnelle portée par son esprit et qu'on sait qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver ça, alors ça change beaucoup de choses. Et je ne suis pas du tout le seul à en parler. Jean-Marie Delassus, qui est mort maintenant et qui avait créé le service de maternologie, disait que pour qu'un enfant puisse exprimer sa vraie nature, il faut qu'il y ait des équivalents de ce qu'il appelle, lui, la totalité vitale, que moi j'appelle la complétude, des équivalents de la vie intra-utérine sur Terre. C'est-à-dire, en gros, la bientraitance, la bienveillance. Et à ce moment-là, l'enfant peut garder espoir que ce qu'il a vécu dans la vie intra-utérine, il pourra le retrouver au moins partiellement sur Terre. S'il ne le retrouve pas, c'est ça qui produit le désespoir dont je parlais tout à l'heure.
Voilà pour ces deux soirées. Ces deux soirées donc, s'adressent à quel public d'ailleurs ?
Si vous voulez, elles s'adressent en fait à tout public, puisqu'elles s'adressent aussi bien, bien évidemment, peut-être aux femmes qui ont des désirs d'enfants ou qui ont des enfants, aux parents donc aussi, mais à tout humain, puisque tout humain a en lui la trace de cette expérience. Eh bien, c'est intéressant peut-être de savoir comment est-ce qu'on peut, avec quels outils, comment est-ce qu'on peut retrouver cette trace pour exprimer ce que nous sommes. Et il y a énormément de thérapies qui s'occupent de ça, je ne suis pas du tout le seul. Mais remettre l'accent là-dessus, quand même, si un humain, à la fin de sa vie, il a exprimé l'essentiel de son être, je pense qu'il doit partir plus heureux que s'il a fait autre chose. Il y a une expérience, une étude qui a été faite dans les EHPAD, je crois, où on est allé voir les personnes en fin de vie, en leur parlant de leur vie, on leur disait, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez ? Et ce qui ressortait le plus, c'est dire, oui, c'est les moments où je n'ai pas osé suivre mes rêves. Et les rêves, c'est ça, les vrais rêves profonds d'un être, c'est ce qu'il y a d'essentiel en lui. Et où, pour des contingences ou des peurs, ou etc., etc., eh bien, il y a quelque chose qui n'a pas osé prendre le risque de sa vraie nature. Et donc, la première chose à laquelle on s'affronte pour retrouver cette dimension en nous, cette grande dimension, c'est nos peurs. Et que donc, il va falloir des outils pour dépasser les peurs petit à petit. C'est ce que beaucoup développent et que je développe aussi à l'aube.
Docteur Ugrain, donc vous êtes gynécologue obstétricien. Est-ce que vous pratiquez toujours ces disciplines de médecine aujourd'hui ou alors vous consacrez principalement à l'association Accueil et Échange dont vous êtes le président et puis du centre de l'Aube aussi?
Alors, en ce qui me concerne, moi j'ai laissé mon cabinet il y a maintenant, 5-6 ans, je ne sais plus exactement. Donc je n'ai plus d'activité en cabinet. Par contre, on continue à l'aube à proposer des préparations à la naissance, à l'accouchement, à la naissance, à la parentalité, en incluant bien évidemment de façon très importante les pères. D'ailleurs, je vais faire un exposé aux pères dans quelques jours à Valence, pour les pères de la clinique Pasteur. Et puis autrement, en dehors de cette préparation à l'accouchement, eh bien, je développe tous les stages dont je viens de parler. Donc, je suis encore tout à fait dans le sujet de la naissance et de la naissance aussi bien du bébé que de la naissance de l'être. Mais je n'ai plus de cabinet, si c'était ça la question.
D'ailleurs, l'être, vous le situez à quel moment, avant ou après la naissance ?
Alors là, c'est une question auquel je ne sais pas répondre. Par contre, je pense que l'être arrive avant la naissance. Peut-être même longtemps avant. Là, je ne sais pas. Il n'y a pas de données suffisantes pour moi pour trancher cette question-là. Par contre, certains types d'exploration psychologique peuvent dire de façon claire qu'il y a un esprit avant la naissance, c'est sûr. Combien de temps avant, je ne sais pas.
Pour ces rendez-vous, donc, est-ce qu'il y a des possibilités de réservation ou ce n'est pas nécessaire ?
Oui, je voudrais juste revenir sur votre question, parce que d'un coup, il y a quelque chose qui me traversait sur votre question précédente. En fait, il faut bien savoir une chose, c'est que l'enfant a une mémoire, c'est-à-dire qu'en fait, il a bien un esprit qui va mesurer les choses, puisqu'on sait qu'il retient tout ce qui s'est passé dans la vie intra-utérine et que c'est inclus quelque part, que c'est inscrit quelque part, pardon. Donc il y a une mémoire qui s'inscrit, qui va retenir, par exemple, le son de la voix de la mère très, assez vite, qui va avoir le goût de ce qu'elle a mangé parce que ça va imprégner le liquide amniotique. Donc la mémoire agit assez précocement. Je crois qu'on a montré que c'était à partir de 20 semaines. Donc vous voyez, ça donne peut-être une idée. Après, pour en revenir à votre deuxième question, donc oui, pour s'inscrire, eh bien, il faut soit se téléphoner au centre de l'Aube. Donc le centre de l'Aube, c'est accueil et échange, c'est le 04 75 40 03 24. Donc 04 75 40 03 24. Et donc la permanence est ouverte entre midi et demi et tous les jours, entre midi et demi et 14 heures, du lundi au vendredi.
Et puis, vous avez aussi un site internet, donc aube-du6association.com. Eh bien, Hugues Rennes, je vous remercie d'être venu nous présenter ces deux soirées. Il y aura d'autres événements par la suite aussi. Vous organisez, je crois, aussi des rencontres.
Variés, oui.
En fait, variés, oui. Mais qui reviennent quand même. Là, je voyais que vous aviez des rendez-vous sur la chrétienté, par exemple, proposés. Qu'est-ce que vous voulez amener dans cette notion-là?
Alors, sur la chrétienté, c'est parce que des personnes sont venues nous demander. Moi, je ne faisais pas ça. Et puis, en fait, c'est pas moi qui anime. Moi, je suis juste organisateur de ça. Mais il y a des gens plus spécialistes que moi qui viennent pour parler de ça. Et donc, c'est plutôt un échange, d'ailleurs, hein, sur la question. Mais par contre, il y a beaucoup d'autres choses qu'on fait. Alors, dans les soirées de l'Aube, il y a bien sûr ces soirées dont on vient de parler. Et puis, il y a des soirées sur des thèmes très différents. Quelquefois, on présente des films. Quelquefois, quelqu'un qui vient parler d'un sujet particulier. Et puis, il y a tous les stages qu'on propose, mais ça, il suffit d'aller sur le site du Centre de l'Aube pour avoir accès à tout ça.
Je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup, en tout cas, de votre interview. Merci.
Au revoir.
Au revoir.